Aux États-Unis, ils essaient de faire passer quelque chose qui s'appelle le Genius Act. Mais laissez-moi vous assurer que ce n'est pas une œuvre de génie. En fait, c'est quelque chose de très différent. C'est quelque chose de très dangereux pour vous, pour moi, pour la stabilité financière mondiale et pour le contrôle macroéconomique de tout pays. Il faut en parler en conséquence. Qu'est-ce que le Genius Act? C'est la loi américaine qui guide et établit l'innovation nationale pour les monnaies stables, ce qui est une manière tordue de proposer du génie, ce qu'il voulait manifestement expliquer. Mais la réalité est qu'il s'agit de donner aux grandes entreprises américaines de médias sociaux le pouvoir de créer leur propre monnaie stable, qui sont bien sûr une forme de crypto-monnaie. En fin de compte, les grandes entreprises technologiques ne se contentent pas de prendre le contrôle de nos vies par le biais des médias sociaux. Et elles ne se contentent pas de prendre le contrôle de la démocratie aux États-Unis. Elles veulent maintenant prendre le contrôle des banques et de la monnaie elles-mêmes. Et tout cela dans un environnement de réglementation légère. Ce projet de loi constitue une menace majeure pour la démocratie et pour notre économie. Voici ce que permet essentiellement le Genius Act. Les entités non bancaires pourront émettre ce qu'on appelle des monnaies stables. Ce sont des crypto-monnaies. Ne vous y trompez pas. Nous pourrions avoir un Metabuck, un Googlebug ou un X, peu importe comment vous voulez les appeler. Ces choses seraient créées par ces entreprises, nommées par elles et soumises à une réglementation légère. Mais le fait est que, soi-disant, et parce qu'il s'agit de monnaie stable, chacune d'entre elles sera liée à la valeur du dollar. En d'autres termes, le Metabuck pourrait être un Metabuck pour un dollar, mais il pourrait être deux Metabucks. Et le Googlebug pourrait être 4 Googlebug pour un dollar ou tout ce qu'il souhaite. Le fait est que cela crée l'opportunité pour les géants de la technologie d'agir comme des banques centrales privées en créant et en émettant leur propre monnaie. Et la tentation de le faire une fois la loi adoptée sera absolument énorme. Car ce que nous savons déjà, c'est que toutes ces sociétés de médias sociaux n'existent pas pour nous fournir des informations, ce qu'elles font généralement gratuitement, mais pour contrôler les transactions numériques qui découlent de ces informations. Et donc ce qui va se passer, c'est que ces entreprises technologiques ne créeront pas seulement un moyen de paiement, comme elles l'ont déjà fait, mais le lieront dans la plupart des cas à une forme de carte de crédit ou à un autre service bancaire hors de leur contrôle, et créeront plutôt un tel service sous leur contrôle. Elles ne tireront pas seulement profit de la fourniture du contenu de leur site. Elles tireront profit des produits vendus sur leur site et des paiements effectués sur leur site. Et elles tireront même profit du contrôle du support par lequel ce paiement est effectué sur leur site. Et elles fixeront les taux, les frais et les conditions d'utilisation de cet argent. Ce n'est pas comme notre argent actuel que vous pouvez obtenir simplement en échange de vos gains ou de toute autre manière dont vous gagnez de l'argent. Non, l'accès à ces types de monnaie sera déterminé par les entreprises qui les émettent. Et elles pourraient bien sûr en faire les mécanismes exclusifs de paiement sur leur site. Et c'est assez extraordinaire. Il s'agit d'un monopole qui existera du début à la fin pour chaque type de transaction sur leur site de médias sociaux. Et ce que les grandes entreprises technologiques ont fait pression sur le gouvernement américain pour qu'il le fasse, et les deux principaux partis politiques américains ont signé pour cela, car cela est soutenu à la fois par les démocrates et les républicains, c'est de retirer ces nouvelles monnaies de la réglementation générale. Il existe aux États-Unis un organisme appelé le CFPB, le Bureau de la protection financière des consommateurs, qui existe pour empêcher les gens de se faire arnaquer, pour mettre fin à la fraude et à l'exploitation. Et il est très évident qu'il existe un marché important que ce bureau doit réglementer en ce qui concerne les paiements en ligne, car nous savons tous que les paiements en ligne sont un domaine où la fraude est répandue. Mais cette loi retirera ces monnaies de la surveillance de ce conseil. En d'autres termes, il n'y aura aucune réglementation efficace sur ce que feront ces entreprises. Et je vous dirais que cela est profondément dangereux. Les précédents historiques sont désastreux. Avant la Grande Dépression des années 1930, il y avait des problèmes aux États-Unis en raison d'un manque de séparation entre les banques et les entreprises. Après la Grande Dépression, les États-Unis ont tiré les leçons de la leçon. Ce qu'il a compris, c'est que les banques commerciales, les personnes qui détenaient de l'argent pour le compte de Monsieur Tout-le-Monde et qui géraient les systèmes de paiement pour eux, devaient être isolées de tous les autres risques afin de garantir qu'elles ne pourraient pas faire faillite alors que tout le monde autour d'elles le ferait. C'était la grande leçon tirée des années 1930 et elle a été résumée dans quelque chose appelé le Glass-Steagall Act qui n'autorisait même pas les banques à entreprendre des activités d'investissement. Cela s'est produit jusqu'en 1999, lorsque Bill Clinton a retiré la loi en question et que la déréglementation est désormais devenue monnaie courante au sein du système. Mais ce que nous observons ici est quelque chose qui va forcer la déréglementation beaucoup plus loin. La barrière entre le commerce et l'ensemble du système de paiement va pratiquement disparaître. C'est la conséquence inévitable de ce que les crypto-monnaies ont défendu. Si l'élection présidentielle de 2024 aux États-Unis a porté sur quelque chose, c'est bien sur la crypto-monnaie. Des millions de dollars ont été versés par les sociétés de crypto-monnaie dans les campagnes électorales. Encore une fois, j'insiste sur les deux côtés du débat et la conséquence est que nous avons maintenant ce risque potentiel pour l'économie américaine qui va bien sûr se propager. Soyons clairs, une fois que ces entreprises, qu'il s'agisse de Meta, Facebook X ou autres, auront l'habitude de facturer en utilisant leur propre devise aux États-Unis, vous ne pouvez pas imaginer qu'elles s'arrêtent là. Elles vont exiger le droit d'utiliser ces devises dans d'autres pays. Mais cela crée bien sûr des problèmes majeurs, car qu'est-ce qui va être utilisé pour le paiement dans d'autres pays où y aura-t-il un taux de change fixe? Et s'il n'y en a pas, comment saurons-nous précisément ce qui nous est facturé? Supposons qu'Amazon crée un Amazon, peu importe comment il veut l'appeler. Peut-être qu'il l'appellera simplement Amazon comme unité monétaire. Ils l'utiliseront pour fixer les prix aux États-Unis, mais supposons qu'ils fixent les prix de la même manière au Royaume-Uni. Il faudrait évidemment un différentiel de prix. Comment contourner cela? Comment gérer cela? Comment comprendre quel est le taux de transaction et de conversion actuel? Le saurez-vous avec certitude? Ou bien cela a-t-il la capacité la plus extraordinaire de saper la stabilité des devises réelles? Mais surtout, nous risquons de nous retrouver avec un contrôle antidémocratique des monnaies mondiales, ce qui menacerait gravement la stabilité des monnaies émises au niveau national et déstabiliserait le contrôle des taux d'intérêt, des taux d'inflation, des récessions et de tout le reste par les banques centrales dans le monde. Toute l'idée que nous avons actuellement de la gestion d'une économie repose sur le fait qu'il n'existe qu'une seule monnaie en cours légale dans un pays et que c'est sur cette base que les banques centrales peuvent gérer le fonctionnement de l'économie. Mais une fois que les grandes entreprises émettront leur propre monnaie, dont l'usage deviendra courant car elles pourraient exiger qu'elle soit utilisée et que vous conserviez une forme de compte bancaire chez elles pour pouvoir dépenser de leur côté, ce que vous pouvez facilement imaginer, alors le contrôle de l'économie sera beaucoup plus difficile. Et ce sera particulièrement le cas si elles commencent à proposer des prêts dans cette monnaie avec leurs propres taux d'intérêt et leurs propres opérations bancaires efficaces. Comment serez-vous alors sûr qu'il existe un contrôle financier simple sur la quantité de monnaie en circulation dans l'économie, ce qui est l'une des bases de la politique monétaire générale? Mais il y a plus de risques que cela. Tout fonctionnerait probablement bien avec ces monnaies si tout allait bien. Mais que se passe-t-il lorsqu'une monnaie stable devient illiquide? Tout le monde veut soudainement retirer son argent. Ces entreprises technologiques auront-elles suffisamment de ressources pour payer tout le monde à la demande? Ou pourrions-nous soudainement nous retrouver avec des paniques bancaires? Rappelez-vous que les paniques bancaires ne sont pas inconnues dans l'histoire. Au Royaume-Uni, il y en a eu très peu. Il y en a eu plus aux États-Unis, mais au Royaume-Uni, nous en avons eu une en 2007. Northern Rock a subi une panique bancaire. Et la seule façon de maintenir cette situation était que le gouvernement britannique garantisse que tout le monde récupérerait son argent. Que se passerait-il si l'une de ces monnaies stables, supposée liée à une monnaie stable, commençait à s'enrichir? Cela se traduirait-il alors par une crise traditionnelle du système financier? Ces entreprises privées fausseraient-elles les prix et la demande réelle? Enverraient-elles des signaux au marché qui pourraient en fait conduire à une mauvaise gestion économique de la part des banques centrales? Et les cabinets fiscaux pourraient-ils en fait capturer des données qui leur permettraient de gérer l'économie dans une mesure qui échappe totalement au contrôle du gouvernement central? Et rappelez-vous que cela fait bien sûr clairement partie des objectifs de certaines des grandes entreprises technologiques. Rappelez-vous que les grandes entreprises technologiques sont dans de nombreux cas étroitement alignées sur les intérêts de l'extrême droite aux États-Unis. Elles sont très pro-libertaires, ce qui signifie en fait pour la plupart des gens qu'elles sont anti-liberté, car c'est ce que signifie pro-libertaire pour la plupart des gens. Et elles sont très anti-gouvernementales. Ainsi, l'opportunité que cela offrira aux entreprises technologiques de potentiellement saper la souveraineté économique et fiscale d'un État serait très attrayante pour certains opérateurs. Ces monnaies pourraient, comme toutes les crypto-monnaies, être utilisées pour des flux financiers illicites ou de simples activités d'évasion fiscale. Cela constituerait alors une menace pour les recettes fiscales. Dans ce cas, il ne s'agit pas d'innovation. Ce que nous voyons dans le Genius Act n'a rien à voir avec le génie. Ce que nous voyons, c'est une attaque frontale et directe contre le pouvoir de l'État et une revendication selon laquelle les monopoles devraient voir leur portée s'étendre. Il s'agit d'accorder à quelques entreprises dans le monde le droit de faire des bénéfices presque sans limite. Le droit de leur accorder un contrôle économique et un pouvoir, ainsi que le droit de priver le public des informations dont elles ont besoin pour faire leurs propres choix, car dans de nombreux cas, l'existence de ces monnaies multiples sera profondément déroutante. Comment comparer un prix sur une plateforme avec une autre si elles utilisent des monnaies différentes? Tout le monde va-t-il sortir sa calculatrice et vérifier? Existe-t-il des mécanismes pour échanger l'argent que vous aviez laissé sur Amazon pour l'acheter maintenant sur un autre site? Qui sait? Tous ces risques sont réels ou constituent un obstacle au commerce. Le fait est que le Genius Act n'est en aucun cas dans votre intérêt. Cette loi va à l'encontre de vos intérêts. Elle va à l'encontre des intérêts de notre gouvernement. Elle va à l'encontre des intérêts de notre système fiscal. Elle va à l'encontre des intérêts de toutes les personnes qui dépendent des services gouvernementaux. Il s'agit donc d'une prise de pouvoir délibérée visant à saper tout ce qui a de la valeur dans notre société. Dans ce cas, ne devriez-vous pas crier haut et fort et dire non au Genius Act où que vous soyez? Parce que ce n'est peut-être qu'un projet de loi américain pour l'instant, mais vous pouvez être sûr qu'il va se répandre assez rapidement dans le monde entier.